Bonjour à tous, tous ceux que j'ai pas salués, et à tous ceux qui sont en vacances et qui nous écouteront sur le SoundCloud de l'église. Alors, et merci Aurélien pour la lecture. Alors pour tous ceux, tous les vaillants qui ont été là tous les cultes du mois de juillet et qui sont encore là aujourd'hui, et pour tous ceux qui aussi réécouteront cette prédication en ligne, vous vous dites peut-être, oh là là, Johan, Aurélien et Antoine, qu'est-ce qu'ils font là avec cette série de prédications dans Romains 4 ? Est-ce qu'ils veulent nous faire gonfler la tête en nous expliquant tous les rouages de la justification par la foi ? Est-ce que c'est vraiment le moment de faire ça là ? C'est l'été, l'école est loin, il fait chaud, on est en mode plutôt vacances. Et vous voulez qu'on ait de grandes discussions techniques sur la manière dont la justification fonctionne ? Alors je vous rassure, non, ce n'est pas du tout l'objectif, c'est pas du tout l'objectif de Paul en Romains dans sa lettre. Le but n'est pas de faire grandir notre connaissance, de faire grossir nos têtes avec tout un tas d'informations techniques et théologiques, mais le but de Paul dans sa lettre et notre but en étudiant ensemble ce passage, c'est de nous exposer au message profond de l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, dans le but de nous unir et de nous enthousiasmer dans l'annonce de cette bonne nouvelle. En fait, on essaie de répondre aux questions suivantes. En quoi cette exposition de l'Évangile nous encourage notre Église à être stimulée, passionnée, motivée dans l'annonce de l'Évangile autour de nous? Et en quoi cette exposition de l'Évangile nous encourage notre Église à vivre l'unité et à vivre l'amour entre nous. Alors, dans le début de Romains 4, on a vu que Abraham et David n'ont pas été considérés comme justes sur la base de leur obéissance à une loi, mais à cause de leur foi en Dieu. Paul, il a démontré, en se basant sur des citations de l'Ancien Testament, qu'Abraham et David n'étaient pas particulièrement obéissants, au contraire, mais que Dieu les a déclarés justes. Il t'a sauvé malgré tout à cause de leur confiance en lui. On était exposé à cette vérité extraordinaire avec Johan. Le salut n'est pas par les œuvres, mais par la foi. Et ça nous a motivés dans l'unité et l'amour. Je n'ai pas été sauvé parce que je suis meilleur que lui ou que elle. Non. Donc je peux aimer ma sœur ou mon frère, même si il n'est pas toujours aimable, et je suis sauvé non pas par ma propre justice, mais grâce au pardon de Dieu acquis à la croix. Alors je peux moi aussi vivre ce pardon dans l'Église. Et ça nous a stimulés dans l'annonce de l'Évangile. Waouh ! C'est pas accessible uniquement à une élite spirituelle, ou intellectuelle, ou morale, mais à tous. À peut-être mon ami qui ne sait ni lire ni écrire, à mon voisin qui sort de prison peut-être, etc. Et ensuite, on a vu que le salut est pour tous, juifs, non-juifs, toutes les nations. Et ça aussi, ça nous a motivés à ne pas nous arrêter à l'arrière-plan familial, religieux ou ethnique de nos frères et sœurs dans l'Église ou de nos amis autour de nous. Tout le monde peut recevoir le même salut s'il place sa confiance en Dieu. Et maintenant, avant de voir en profondeur tous les fruits merveilleux de la justification par la foi, ça c'est en Romains 5 si vous voulez poursuivre la lecture, Paul va détailler ce que veut dire être justifié par la foi. En quoi consiste la foi ? Et pour nous aider, il fait un parallèle entre la foi d'Abraham et celle que nous pouvons avoir. Et vous allez voir, ça va, je l'espère, nous motiver encore à l'annonce de l'Évangile et à l'unité et l'amour dans l'Église. Alors vous avez peut-être vu, le texte qui nous occupe là contient deux parties qui sont facilement reconnaissables. Dans la première partie, Paul nous parle d'Abraham et de sa foi. Et dans la deuxième partie, Paul nous parle de nous. On voit la coupure entre versets 22-23. C'est pour cela que cela lui a été compté comme justice. Verset 23, « Or ce n'est pas pour lui seulement qu'il est écrit que la foi a été portée à son compte, mais aussi, c'est aussi pour nous. » Donc on va simplement structurer notre temps avec ces deux parties-là. Alors premièrement, en quoi consiste la foi d'Abraham ? en qui Abraham croit. Eh bien, Abraham croyait en Dieu. Et c'est le verset 17 qui nous montre, dans ce verset, il nous spécifie qui est ce Dieu. C'est le Dieu qui donne la vie aux morts. C'est un Dieu capable de résurrection, qui appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Donc c'est un Dieu créateur. Et donc au cœur de la foi d'Abraham, il y a Dieu, un Dieu tout-puissant. Abraham croyait que Dieu pouvait faire naître la vie de la mort, qu'il pouvait rendre fertile quelque chose de stérile, qu'il pouvait donner des enfants à un couple âgé en incapacité d'en avoir, par exemple. Ça, c'est le qui de la foi d'Abraham. Maintenant, le quoi ? Qu'est-ce qu'Abraham croyait au sujet de Dieu ? Eh bien, il croyait que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Ça, c'est le verset 21 qui nous le dit. Ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Et ce que Dieu lui a promis, c'est qu'il devienne le père d'un grand nombre de nations, comme le dit le verset 18. Donc, Abraham croyait en Dieu et il avait la conviction que la promesse de Dieu allait s'accomplir. Maintenant, le comment de la foi d'Abraham. Comment se caractérise sa foi ? Est-ce qu'Abraham et Sarah avaient eu des enfants en pagaille dès le début de leur mariage, de sorte à ce qu'ils n'aient pas trop de doutes sur l'accomplissement de la promesse de Dieu ? Eh bien non. Si vous vous souvenez de l'histoire qu'on a étudiée en détail cette année, ce n'était pas le cas. Ils croyaient en la promesse de Dieu, oui, mais ils y croyaient malgré le fait qu'ils n'avaient aucune espérance à vue humaine. Regardez les versets 19 et 20. « Sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. » Donc il n'a pas considéré cette réalité, mais il avait bien conscience que c'était une réalité. « Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu. » Donc Abraham n'a pas faibli dans la foi, malgré les circonstances. Et là, normalement, si vous avez suivi la série qu'on a fait en Genèse, ou si vous connaissez un peu l'histoire d'Abraham, vous devez vous dire, en tout cas moi c'est ce que je me suis dit tout de suite, mais attends Paul, est-ce que c'est le même Abraham qu'on connaît ? Paul, il nous décrit un homme qui apparemment n'a pas douté, qui a été fortifié dans la foi, qui ne s'est pas inquiété de leur infertilité avec Sarah, alors que nous, on a lu l'histoire d'un homme plein de doutes, plein de craintes, à la recherche de solutions humaines à ses problèmes. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que Paul n'écrit pas exactement dans le même but que l'auteur de la Genèse ici. Son seul objectif, c'est de nous montrer à quoi ressemble la justification par la foi. Et c'est vrai que Abraham a cru à la promesse de Dieu et que sa foi lui a été comptée comme justice. C'est un peu comme quand vous prenez les bulles pour monter à la Bastille. Et merci Aurélien pour l'illustration. J'ai jamais fait ça apparemment, mais il paraît que c'est vraiment chouette. On part du centre-ville, où on voit de beaux bâtiments autour de nous, on voit l'Isère. Mais on voit aussi pas mal de déchets dans les coins des rues. On voit des poubelles sales. On voit des crottes de pigeons un peu partout, des routes en travaux. Et on monte en direction de la Bastille. Et là, on voit, quand on arrive, même dans les bulles, on voit la même ville de Grenoble. On voit les mêmes bâtiments, on voit les mêmes routes, on voit les mêmes parcs. Mais on voit pas tous les petits détails, tous les travaux, toutes les crottes de pigeons et tous les déchets qui traînent. Pourquoi ? Parce que tout est une question de recul et de perspective. Oui, les crottes de pigeons, j'aime pas du tout ça. En ville. Tout est une question de perspective et de recul. Donc, même si on connaît l'histoire d'Abraham un peu plus en détail, et Paul la connaissait aussi, on peut quand même dire que Paul a raison en disant qu'Abraham a cru malgré les circonstances. Il a considéré son corps, celui de sa femme. Il a eu bien conscience que c'était impossible d'avoir un enfant. Et malgré cela, il a cru. Et là, on voit que la foi, c'est pas de l'inconscience par rapport aux réalités terrestres, mais c'est la conscience que Dieu peut tout et qu'il fera tout ce qu'il a promis. Et on a tendance à utiliser parfois le mot foi dans un autre sens. On dit « j'y vais par la foi, j'y vais pas par la vue ». C'est un peu un synonyme de « on y va les yeux fermés ». On peut l'utiliser pour justifier une décision un peu trop ambitieuse. Et ici, ce n'est pas vraiment ce genre de foi dont il s'agit. C'est une foi qui considère la réalité, qui en est consciente et qui, malgré cela, s'attache à la promesse de Dieu. Et enfin, pourquoi ? Qu'est-ce que produit cette foi ? Eh bien, on voit que la foi d'Abraham a rendu gloire à Dieu, verset 20, et la foi d'Abraham lui donne la justification, verset 22. C'est pourquoi cela lui a été compté comme justice. Pourquoi sa foi lui a rendu gloire à Dieu ? Eh bien, la foi d'Abraham était une foi en la promesse de Dieu de faire de lui le père de nombreuses nations. Et cette foi a glorifié Dieu parce qu'elle a attiré toute l'attention sur les ressources surnaturelles, toutes puissantes de Dieu, qui seraient nécessaires pour accomplir cette promesse. Abraham était trop vieux pour avoir des enfants, Sarah était stérile. Et en plus, ce n'est pas seulement un enfant qui leur était promis, mais plusieurs nations, de grandes nations. Tout cela semblait totalement impossible. Donc la foi d'Abraham pointait les regards vers Dieu. Et c'est toujours ce qui se produit avec la foi. La foi met en évidence la faiblesse humaine et la toute-puissance divine, la force de Dieu. Donc sa foi a rendu gloire à Dieu et aussi lui a acquis la justification. Dieu a compté comme justice la foi d'Abraham. Il a déclaré juste Abraham sur la base du fait qu'il a cru en sa promesse et rien d'autre. Et ça, c'est ce qu'on a vu en détail les dimanches précédents. Alors si Paul passe autant de temps à décrire en quoi consiste la foi d'Abraham, c'est dans un but précis, celui de nous montrer en quoi consiste ou doit consister notre foi. Et c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie. Je relis les versets 23 à 25. « Or ce n'est pas pour lui seulement qu'il est écrit que la foi a été portée à son compte, mais c'est aussi pour nous. Elle sera portée à notre compte, puisque nous croyons en celui qui a ressuscité Jésus notre Seigneur, lui qui a été donné à cause de nos fautes et qui est ressuscité à cause de notre justification. » À quoi ressemble notre foi ? Eh bien, elle est comme celle d'Abraham. En qui croyons-nous ? Nous croyons en Dieu qui a ressuscité Jésus. Alors, si nous croyons en celui qui a ressuscité Jésus, nous croyons dans le Dieu qui donne la vie aux morts, comme celui d'Abraham. C'était le qui, le quoi, en quoi croyons-nous ? En quelle promesse de Dieu ? Eh bien, nous croyons, si nous sommes chrétiens, ce que Paul nous dit ici, que Jésus a été donné, sous-entendu donné en sacrifice, pour nos fautes, parce que nous sommes pécheurs, fautifs, de vouloir vivre sans nous soumettre à Dieu et sans nous soumettre à sa volonté. Et nous croyons que Dieu l'a ressuscité à cause de notre justification. Alors, où est la promesse ici ? Eh bien, Dieu nous assure que ce qu'il a fait avec Jésus, en le donnant pour nos fautes et en le ressuscitant, nous justifie. La promesse, c'est que l'œuvre de Christ nous justifie. Et que si nous croyons que Jésus est mort pour nos fautes et ressuscité pour notre justification, alors Dieu nous déclare juste sur la base de cette foi. Et là, on peut se poser la question, pourquoi la résurrection est si importante pour notre justification ? Eh bien, parce qu'elle fonctionne comme le sceau, comme le tampon de Dieu qui authentifie l'œuvre de Christ qu'il a fait à la croix. En ressuscitant Jésus, Dieu nous affirme que le sacrifice de son Fils a été pleinement reçu, qu'il a été efficace. Il nous affirme qu'une nouvelle vie est possible pour les croyants. Il nous donne une espérance qu'au jour du jugement, nous vivrons également cette résurrection des morts. en suivant les traces de Jésus. Donc voilà la promesse que nous pouvons croire et que nous croyons en tant que chrétiens. C'est le quoi ? Le comment maintenant ? Comment est-ce qu'on croit ? Eh bien, comme Abraham, nous croyons en la promesse de Dieu, alors qu'à vue humaine, il n'y a aucune espérance. Mais c'est ce que Paul a essayé de nous faire comprendre dans les trois premiers chapitres de sa lettre. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. On est pécheur de la tête aux pieds. On mérite que le jugement et la colère de Dieu. On était sans force. On est les ennemis de Dieu. Et rien dans notre attitude de cœur, rien dans notre comportement, dans notre vie tout entière, ne nous rassure en ce qui concerne l'approbation de Dieu. Rien. Au contraire, toute notre vie nous assure le contraire. Que nous sommes ennemis de Dieu, que nous méritons sa colère et son jugement. Donc ça veut dire que rien dans nos circonstances donne une raison valable à Dieu de faire ce qu'il a fait, de nous donner son Fils par amour et d'agir selon sa promesse en nous justifiant. Mais c'est justement en étant conscient de cela qu'on comprend l'Évangile. C'est quand on comprend qu'on est bien plus pécheur, corrompu que tout ce qu'on pourrait imaginer, et qu'en même temps on est bien plus gracié et aimé que tout ce qu'on pourrait imaginer, qu'on comprend la bonne nouvelle de Jésus et qu'on peut placer notre foi en lui. L'Évangile est pour ce genre de personnes. Il est pour Abraham qui avait conscience de sa faiblesse et de sa stérilité. Il est pour nous qui savons que nous ne pouvons pas gagner l'approbation de Dieu. Il est pour ce collecteur d'impôts qui disait à Dieu dans sa prière, qui demandait à Dieu de le sauver parce qu'il est un pécheur, pire que tous les autres. Et il n'est pas pour ce publicain qui priait à Dieu en lui disant, en le remerciant qu'il était bien meilleur que tout le reste des hommes. Ça, c'était le comment. On croit, malgré les circonstances, en la promesse de Dieu qu'il agira en notre faveur grâce à l'œuvre de Jésus. Et maintenant, le pourquoi. Que produit notre foi ? Eh bien, ce que nous dit ce passage de Romains, c'est que nous sommes justifiés par quoi ? Par la foi, comme on ne fait que le répéter depuis quelques semaines. Et si on est justifié par la foi, on n'est pas justifié par autre chose. Et on n'est pas justifié, par exemple, par la conversion. C'est le premier effet. On y reviendra. Et notre foi a aussi comme effet qu'on prend part à la gloire de Dieu. C'est le but de notre justification. Alors, il est intéressant de noter que c'est notre foi qui nous donne la justification, pas notre conversion, comme je le disais, pas notre expérience. Et ça, c'est une tendance qu'on peut tous croire parfois, que c'est la décision qu'on a prise un jour, le changement radical qu'il y a eu un jour dans notre vie, la prière qu'on a faite en colonie l'été ou avec notre pasteur ou nos moniteurs d'école du dimanche ou de groupe de jeunes, qui va déterminer si nous sommes sauvés, si nous sommes justifiés. Et on fonde notre assurance de notre salut sur la validité, sur l'authenticité de cette expérience. Et on fonde aussi notre assurance qu'on est bien justifié, sauvé, sur la transformation qu'a produit cette expérience. Avant, j'étais comme ça, j'avais telle attitude, tel péché, mais à ma conversion, j'ai complètement changé de comportement. Alors, quel est le problème avec cette manière de penser ? Eh bien, il y a deux problèmes, entre autres. Le premier, c'est le subjectivisme. Alors, on peut dire qu'il y a bien un mouvement de conversion quand on se tourne vers Christ. Il y a bien un avant et un après. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a toujours un changement d'habitude dans les faits et que ce changement ira toujours vers le mieux. Pour ceux qui ont grandi ou qui vivent dans une famille chrétienne, par exemple, il n'y a parfois pas de conversion nette. Et ça fait qu'on peut se mettre à douter de notre foi quand on entend des témoignages forts de conversion. On se met à douter parce qu'on n'a pas tous fait ce genre d'expérience très forte. Et donc ça, c'est le problème du subjectivisme. Comment savoir si j'appartiens réellement au Seigneur, à Christ? Comment savoir si je suis sauvé? Cette vision des choses répond, regarde ta décision, regarde ton expérience de conversion. Mais en réalité, notre expérience, elle est subjective. Et même l'analyse qu'on en fait quand on la regarde est subjective. Et au final, toute notre assurance repose sur la subjectivité, sur ce qu'on a l'impression d'avoir vécu. Alors que regardez ce que nous dit Romains 4. Comment savoir si j'appartiens au Seigneur? Romains 4 nous dit « Regarde à Christ et pose-toi la question, est-ce que je crois en lui ?» Romains 4 nous montre que notre justification, notre salut, ne dépend pas d'une expérience de conversion, mais de notre foi, tout simplement. Est-ce que tu crois sincèrement en Dieu, en sa promesse que l'œuvre de Christ te réconcilie avec Dieu? Est-ce que Jésus est ton Seigneur? Le maître de ta vie, le maître de tes choix? Et c'est la réponse à ces questions qui détermine si nous pouvons nous dire chrétiens ou pas, et que nous pouvons être sûrs de notre salut ou pas. Ce n'est pas l'intensité de l'expérience de conversion qu'on a eue ou le changement que ça a produit. Et un autre problème qui existe avec cette perspective, c'est la culpabilité. Il y a un problème sur l'insistance qu'on peut mettre entre l'avant et l'après cette expérience de conversion. On évalue notre péché sur la base de notre expérience de conversion. Et on se dit, si je faisais ça avant d'être chrétien, maintenant, si j'ai eu cette conversion, je ne devrais plus le faire. Et si jamais on retombe dans un péché, et parfois peut-être même plus gravement qu'avant notre conversion, on est envahi par la culpabilité et le doute. Mais en fait, il se peut que Dieu révèle des choses cachées avant notre conversion et il ne faut pas avoir une culpabilité excessive à cause de ça. C'est une partie de l'œuvre de l'Esprit en nous que de nous révéler avec l'aide du miroir qui est la parole de Dieu, les péchés cachés, enfouis dans notre cœur. En fait, le problème avec cette vision des choses, c'est de croire que la conversion fait de nous des personnes totalement différentes. Mais regardez ce que dit Romains. C'est complètement différent. Romains 5, verset 1, donc c'est le verset juste après celui, le 25. Ainsi donc, déclarés juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 5, 1 nous dit que la justification est une déclaration. Et un commentateur dit la chose suivante, la justification ne fait pas d'un pécheur un être différent, elle le déclare juste au regard de la loi. Le pécheur a assurément besoin d'être rendu bon, et ce sera l'œuvre du Saint-Esprit à mesure qu'il le fera croître. Mais soyons d'abord très au clair à propos de la justification. Elle ne décrit pas un état, mais une position. Elle se réfère à notre position devant Dieu. Hors de Christ, nous n'avons aucune position sinon d'être coupables et condamnés. Mais avec Christ comme sauveur et substitut, nous sommes acquittés et justifiés, car il a porté lui-même notre péché. C'est exactement la situation du coupable qui est au tribunal et qui reçoit la grâce présidentielle. Il est toujours coupable, fautif. Mais c'est son statut qui change. Dernier point, et on va finir avec ça. Quel est le but de notre justification? Comment est-ce que vous répondez à cette question? Pourquoi est-ce que je désire être pardonné? C'est vrai, on parle beaucoup de notre besoin de justification, mais pourquoi est-ce qu'on le désire, si vous le désirez? Alors, faisons une pause et imaginez-moi dans la situation suivante. Situation que j'ai imaginée à partir d'une lecture que j'ai faite cette semaine. Je me réveille un matin et là, alors que j'ai une envie pressante, caractéristique de chaque matin, je trébuche sur du linge sale qu'une personne aurait laissé par terre dans le couloir. Je ne dis pas qui c'est. Et ça n'arrive jamais chez nous de laisser du linge sale par terre. rarement en tout cas. Et là, au lieu de simplement le déplacer ou le mettre dans la caisse de linge sale, je fais demi-tour et je viens râler sur ma femme encore endormie parce qu'elle a laissé traîner ça. Vous savez, vous arrivez à imaginer ? Alors elle se lève, pas dans la meilleure disposition du monde, vous pouvez l'imaginer, et elle s'occupe du linge sale silencieusement qu'elle a laissé traîner la veille, puis va dans la cuisine. Son silence et ma conscience me font savoir que notre relation connaît à ce moment-là de graves difficultés. Je vais dans la cuisine à mon tour, après avoir soulagé cette envie pressante. Mais ma conscience me condamne. C'est vrai que ce linge sale n'aurait pas dû se trouver dans le couloir, et que j'aurais pu me faire très mal en trébuchant sur ses vêtements. Mais c'est fort probable qu'en réalité, ma réaction a pris des proportions démesurées. Non seulement mes paroles étaient beaucoup trop dures par rapport à la faute, mais la Bible m'enseigne à être remplie de grâce. Alors dans la cuisine, l'atmosphère est glaciale. Que doit-il se passer ? Eh bien, la réponse est claire. Il me faut m'excuser à ma femme et lui demander pardon. Ce serait la chose à faire. Mais, et c'est là où l'illustration prend son sens, pourquoi est-ce que je désire lui demander pardon ? Et qu'elle me pardonne. Pour qu'elle me prépare mon petit déjeuner préféré avec gentillesse ? Pour que ma culpabilité disparaisse et que je puisse me concentrer au travail ? Pour que notre enfant ne prenne pas conscience de notre conflit ? Pour qu'elle admette enfin qu'elle aurait dû déposer ce fameux linge sale ailleurs ? Bah, c'est possible que toutes ces choses se produisent. Mais vous êtes d'accord que ça ne doit pas être la seule raison, même la raison tout court pour laquelle il faut que je demande pardon. C'est quoi la bonne raison ? Eh bien, je veux que ma femme me pardonne afin de continuer à vivre une bonne communion avec elle. Ma femme est elle-même la raison pour laquelle je désire son pardon. Je veux que notre relation soit restaurée. Le pardon constitue simplement le moyen par lequel on se débarrasse des obstacles sur notre route afin de pouvoir nous regarder à nouveau l'un l'autre avec joie, avec amour, avec complicité. C'est elle et notre relation qui me motive, pas moi et les bienfaits que je peux en tirer. Et ben, c'est exactement pareil quand on considère notre justification. Le but de la justification, c'est pas notre propre bien-être, notre propre assurance face à la mort, face au jugement de Dieu, ou la possibilité qu'on puisse recevoir les bénédictions divines. Ce serait un peu de la manipulation de Dieu, ou de la superstition peut-être. Non, le but, c'est pas nous, mais Dieu et notre relation avec lui. Et c'est ce que nous dit Romains 5, versets 1 et 2. Déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Notre foi a pour effet que nous prenons part à la gloire de Dieu et que nous sommes en paix avec lui. La relation est au cœur de cette foi. Et elle est restaurée grâce à la justification. Alors pourquoi est-ce que je désire être pardonné ? Eh bien, la justification n'est pas une fin en soi. Mais c'est la relation avec Dieu, sa gloire, qui compte par-dessus tout. L'enjeu est dans la relation avec Dieu, qui, lui, est notre bien suprême, contrairement à notre désir de ne pas nous sentir coupables ou de vouloir être en paix. Voilà le but suprême de la justification. Alors, pour conclure, en quoi notre texte répond aux questions de l'introduction ? Eh bien, il nous stimule pour l'annonce de l'Évangile. Dieu, c'est le but. Il est le bien plus grand encore que tous les fruits de la justification. Donc, plus je le contemple, plus je cherche sa face, plus ça me passionne dans l'annonce de l'Évangile autour de moi. Ce n'est plus juste « regarde tout ce que ça peut t'apporter de croire en Dieu ». C'est « regarde à quel point c'est merveilleux ». C'est comme Abraham qui a levé les yeux au ciel pour contempler les étoiles. Ça apporte pas grand-chose personnellement, mais c'est tellement merveilleux. Alors ce texte est une invitation à faire comme lui, à regarder à Dieu et à chercher avant tout la relation avec lui. Et ce texte nous invite à rester unis dans l'amour en Église. On est unis parce que on croit le même Dieu, on a la même foi, quelle que soit notre expérience de conversion. Ce qui compte avant tout, c'est la foi et ce en quoi on croit. Et ça évite les comparaisons sur notre témoignage, sur la radicalité du changement dans notre vie et sur les galères qu'on peut traverser dans notre lutte avec le péché, selon les périodes de notre vie ou qui nous sommes. Et l'une des manières d'exprimer cette unité, eh bien, c'est la Sainte Cène, le repas du Seigneur. C'est un moyen de le faire pour nous si nous sommes chrétiens. Ce repas nous permet d'exprimer notre unité et c'est un signe tangible, objectif de notre foi. Alors, c'est quoi la Sainte Cène ? Eh bien, je lis simplement l'explication de Paul sur ce que c'est que la Sainte Cène. On peut trouver cette explication en 1 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 25, si vous voulez lire aussi. Verset 23. 1 Corinthiens 11, 23. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange du pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » La scène, c'est un moyen de grâce visible, tangible, objectif, qui nous permet de nous souvenir de l'œuvre de Christ à la croix et de nous souvenir, de nous approprier une nouvelle fois son œuvre, la promesse de Dieu que l'œuvre de Jésus à la croix produit quelque chose pour nous, nous justifie. Et ça, c'est bien plus objectif que notre expérience de conversion et c'est l'une des raisons pour lesquelles c'est important de l'apprendre régulièrement en Église. Alors, on va prier et puis on fera circuler ce repas. Et puis ensuite, si quelques-uns veulent prier, vous pouvez le faire, que ce soit dans votre cœur ou à voix haute. Et ensuite, on terminera en chantant un chant, peut-être plus d'un, mais au moins un, qui affirme ce que nous croyons en tant que chrétiens. Alors, prions. Notre Dieu, notre Père, nous pouvons que te remercier de cette œuvre extraordinaire que tu as opérée à la croix par l'intermédiaire de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Tu l'as donné en sacrifice pour nos fautes et tu l'as ressuscité pour notre justification. Et ce qui nous sauve maintenant, c'est de croire, de mettre notre foi en toi. En toi, notre Dieu, et en cette promesse que tu nous fais que cette œuvre de Christ qui a eu lieu il y a 2000 ans produise quelque chose en nous aujourd'hui et a la puissance de nous sauver, nous justifier. Merci pour cette promesse, merci pour cette œuvre extraordinaire. Et alors que toute notre vie, nos circonstances, notre attitude nous rappelle que nous ne méritons que ta colère. Nous voulons par cette œuvre objective du sacrifice de Christ à la croix, cette œuvre historique de sa mort et de sa résurrection, nous rappeler et nous assurer que tu nous as tant aimés et que tu es favorable envers nous maintenant et que cette œuvre a été efficace pour notre salut et que nous vivrons dans les traces de Jésus cette même résurrection et glorification après notre mort. Merci Seigneur pour cela et merci maintenant pour ce repas que nous pouvons partager librement et qui nous rappelle encore une fois cette œuvre objective, tangible de ton sacrifice pour nous. Amen.